Histoire divertissante, affaire du bois des coins, cours d'assises de la morale, Seine, S-A-I-N-E, et Oise, audience du 10 juillet 1800 quelque chose. Présidence de Monsieur le Vieillard. Avant l'ouverture des portes, une foule énorme, presque entièrement composée de dames en grande toilette, et qu'ont obtenu, grâce à leur entregent particulier, le plus grand nombre de billets dits de faveur, et à juste titre, encombrent les abords du prétoire. Les huissiers et les gardes municipaux ont grand-peine à maintenir l'ordre. Un bataillon d'avocats stagiaires en robe est massé sur le seuil de la grande chambre. On discute chaleureusement les chances d'acquittement de l'accusé. Quelques personnages publics et célèbres, ténors, marchands de contremarque, reporters, etc., ponctuent de leur habit noir le vaste bouquet multicolore que forment les costumes féminins. Le huis clos ayant été énergiquement refusé par le président, et l'affaire du bois des coins ayant eu un retentissement énorme à Paris, les tribunes réservées au public et les salles destinées aux grands personnages sont occupées de bonne heure. Le bruit des conversations particulières et des disputes à propos des petits bancs emplit la vaste salle d'un grand murmure. Le thermomètre marque 35 degrés à l'ombre. Bientôt, on annonce l'arrivée de la cour. Il y a de bien bonnes têtes parmi les membres de la cour. Le silence, réclamé avec furie par les huissiers, est enfin obtenu. Mais dans quel état, hélas ! En lambeaux ! Monsieur le Président annonce une première fois qu'il se verra dans l'obligation de faire évacuer la salle si le public s'obstine à se croire à la Bourse ou au Champ de Mars, un jour de revue. On introduit l'accusé. L'accusé est une petite femme frêle, très blonde. Elle est entièrement vêtue de noir, ce qui lui va très bien. Son nez retroussé, mais fort mignon, son œil limpide, dont le regard fin semble devoir pénétrer dans les cœurs jusqu'aux entrailles, sont l'objet d'un long examen de la part des spectatrices. L'accusée, rose et fraîche, promène son regard avec tranquillité sur l'imposant appareil de la justice. Les gendarmes, à la garde desquels l'accusé est confié, se frisent la moustache sans relâche et la regardent constamment d'un air attendri. L'accusé n'a pas l'air de s'en apercevoir, et de temps à autre, elle croque des caramels en clignant de l'œil dans la direction de M. le Président. Le vieillard, qui, blessé, ne sait plus que faire de sa calotte noire au bout de quelques minutes et finit par y planter un bouquet de plumes noires. L'acte d'accusation. Maître Le Bêcheur, procureur de la République, lit l'acte d'accusation. Le dimanche 2 juillet, entre 8 et 9 heures du soir, un jeune homme d'excellente famille, le sieur Alfred Aristide Alban de Blandin, étudiant en droit venu à Écouen-les-Foix en compagnie de l'accusé, quittait tout à coup le chemin vicinal numéro 29 qui mène du bois précité à la station du chemin de fer et, entraîné par l'exemple ou par des paroles, s'enfonçait dans les taillis qui bordent ce sentier peu fréquenté. Que passa-t-il à la faveur des ténèbres naissantes sous les ombrages illustrés par le souvenir d'une paternelle création de l'empereur Napoléon Ier? C'est ce que les débats se chargeront de mettre en lumière. Mais l'instruction a déjà révélé ceci. Une heure après être entré sous les vertes feuilles du bois, où des innocentes élèves de Madame de Campan se livraient entre elles jadis à des jeux renouvelés des Grecs, le sieur Alban de Blandin, pâle, défait, l'œil allumé et brillant d'une flamme étrange, était aperçu dans la gare du chemin de fer, riant aux éclats d'une façon fébrile On est même du gendarme de service. L'accusé, précédent l'infortuné, victime de sa fémininité, car je n'ose accuser les messieurs qui sont dans la salle, poursuivit le procureur général, m'exprimer ouvertement. L'accusé, précédant la victime, chantait des chansons absolument légères et s'approchant à son tour du représentant de l'autorité, lui dit « Eh bien, Jérôme, tout va bien ?» Le ministère public, défenseur de la sainte morale, protecteur de la société, ne pouvait laisser échapper une si belle occasion de faire preuve de son dévouement à la chose publique. En conséquence, sur la déposition du sieur Léry Bignon, gendarme, la fille Léontine Alexandrine Chaton est traduite pour des faits ci-dessus relatés dans la barre solennelle du tribunal. Interrogatoire de l'accusé. Monsieur le Président procède à l'interrogatoire de l'accusé. Entre parenthèses, disons que cette dernière a écouté la lecture de l'acte d'accusation en faisant preuve du plus profond cynisme. Un scandale a été sur le point d'éclater. L'accusé, après avoir promené son regard sur les fronts impassibles des jurés, s'est mis à rire tout à coup en s'écriant « Hé Louis, psit, fais donc pas la tête parce que t'es du jury !» Stupeur du juré. Mais, sur une simple observation d'un gendarme de service, l'accusé se tait en murmurant « Mais t'as raison, mon vieux Pandore, faut de la tenue. » Interrogatoire. Monsieur le Président à l'accusé. « Vos noms et prénoms ?»« Mais on vient de les dire. Et d'ailleurs, tu les connais bien, Alphonse. » « Mais cette fille est folle !» s'écrie soudain un des jurés, celui qui s'appelle Louis. Sans avoir égard à l'interruption, Monsieur le Président poursuit l'interrogatoire. « Votre âge ? 19 ans à la fête de Saint-Cloud ? Votre profession ? Femme ? Et ce n'est pas toujours bien amusant. D'où veniez-vous le dimanche de juillet, entre 8 et 9 heures du soir ? Du restaurant ? Quel restaurant ? Le restaurant du Père Maclou, au Pigeon Vert ? Et pourquoi quittâtes-vous le chemin vicinal numéro 29 ? Dame, pour faire un bouquet de paprenelles et le lolola ! Nouveau rire. Pour la troisième fois, Monsieur le Président fait observer au public qui se verra dans l'obligation de faire évacuer la salle si de pareils rires se renouvellent. Le silence se rétablit. Monsieur le Président l'accusé. Un bouquet de paprenelle ?
Oui, tout bêtement.
Mais alors pourquoi vous enfonciez-vous sous les charmilles en compagnie de votre malheureuse victime ? L'accusé ne répond pas. Dites plutôt que vous aviez de mauvais desseins. Nouveau silence de la part de l'accusé. Et pourquoi le sieur Alban de Blandin était-il pâle et défait en sortant de ce petit bois ? L'accusé paraît prêt à fondre en larmes, mais elle se ravise et s'écrie « Oh, j'ai des bêtises. Faut demander ça à votre papa, mon bon. » Monsieur le Président, sans se laisser émouvoir par les insidieuses réponses de la fille Chaton, demande l'introduction des témoins et de la victime. Vif mouvement de curiosité. Quelques éventails tombent sur la tête vénérable de plusieurs juges qui se réveillent en s'écriant « Coupable !» Audition des témoins. La victime, joli garçon à l'œil doux, déclare ne pas vouloir servir de témoin à charge. Il ne sait rien, ne réclame rien. Il ajoute que c'est le gendarme de la gare qui a tout fait et qui s'en lave les mains. En disant ces mots, la victime et son bourreau échange des gestes qui témoignent d'un accord parfait. Mouvement d'horreur dans la salle. Déposition des témoins. Grillon, habitant le chemin vicinal. Voilà, monsieur le président. Je chantais, car que faire en son gîte, à moins que l'on ne chante, sur le pas de ma porte, quand j'entendis marcher près de moi. L'accusé, suivant le monsieur ici présent, fumait une cigarette. Était-ce bien une cigarette que l'accusé tenait entre ses lèvres? Oui, oui, monsieur, je vais vous le dire. J'ai un parent qui est employé chez un boulanger. Il connaît tout ce qui a rapport au tabac, à preuve qu'il voit tomber les chics dans la pâte. Mais passons. On passe à l'audition des autres témoins. Mésange, Pifferlard au bois de l'écouan. J'étais sur la branche où je loge à la nuit quand j'aperçus la prévenue. Sa tenue laissait beaucoup à désirer, à son compagnon, et leur désir. Monsieur le Président, je ferai remarquer aux témoins qu'il y a des messieurs dans la salle. Je l'engage à gazer. Le témoin poursuit. Le témoin est certain que s'il y a eu crime, il n'y a pas eu violence. Le jeune homme riait en entrant dans le bois et il disait « Mon lapin noir, nous manquerons le train si ça continue. » Autre témoignage. C'est une bouteille à goulot couvert d'argent qui se présente le bouchon de travers et titubant sur sa base. Votre profession?
Moi, tout cliquot, au gré du consommateur.
Votre nom?
Monsieur le Président la connaît mieux que moi.
Brumeur dans la salle, rire. Monsieur le Président fait observer pour la troisième fois qu'il se verra dans l'obligation de faire évacuer la salle-ci. Et l'ordre se fait comme par enchantement. Le témoin malencontreux est mis à la porte de la salle. On écoute encore une croûte de pain et un os de jambonneau. Ces deux témoins, qui demeurent au Pigeon Vert depuis un temps immémorial, déclarent qu'ils étaient sous la table au moment où l'accusé et la victime sont venus prendre leur repas dans le jardin du patron. L'os de jambonneau, un digne vieillard, ajoute « Ne rien vu de grave. Bon, voilà, la bottine de cette demoiselle reposait sur le soulier de ce monsieur, même que je voyais le barreau de l'accusé. Et au dessert, j'ai entendu à plusieurs reprises un petit bruit au-dessus de moi. On m'a dit « C'est à M. le juge d'instruction que je dois ce renseignement, que c'était des baisers. » Le jeune homme a dit « Ma petite Alexandrine, je suis sur le gris. » Et ce mot m'a frappé, vous comprenez. L'os de jambonneau est également mis à la porte et traité d'idiot par la cour. Réquisitoire. La liste des témoins épuisée, l'avocat général se lève au milieu d'un silence qui n'a rien de profond et débite avec des gestes indignés son copieux réquisitoire. Il demande la tête de l'accusé, naturellement.
« T'es pas dégoûté, toi ?»
crie une voix partie du fond de la salle. On ordonne aux huissiers de rechercher l'audacieux interrupteur. Bousculade, tumulte, mais en fin de compte, l'audacieux interrupteur reste complètement invisible. La cour frémit d'indignation. L'accusé fait un discret pied de nez à Monsieur le Président. La parole est enfin donnée à la défense. Maître Labour, le célèbre et toujours jeune avocat, est aveugle. La chaux n'est que borgne. Il s'élance à la barre, relève sa manche, joint le pouce à l'index en forme d'anneau, tousse et commence. Nous ne reproduirons pas in extenso la brillante, la lumineuse improvisation de l'avocat de la fille Chaton. Bornons-nous à dire que ce maître en l'art de bien dire fait un tableau enchanteur d'une belle soirée d'été, admiré à deux après dîner, à travers le prisme d'une bouteille de vin de champagne. Il évoque habilement les souvenirs personnels du président et des jurés. Il montre, au milieu des herbes fleuries, alerte et suggestif, le mollet arrondi d'une femme, mollet sur lequel bat voluptueusement le volant tuyauté d'un jupon tumultueux. Un frémissement et quelques soupirs circulent en ce moment dans l'auditoire. Les dames font des mines. Les avocats stagiaires ressemblent avec grâce les plis nombreux de leur toge. Monsieur le Président se bouche avec bruit. Les gendarmes écrasent une vieille larme sous leur pouce rugueux. Plusieurs personnes quittent volontiers l'audience, volontairement, vivement impressionnées, et veulent retrouver la créature enchanteresse qui embellit leur foyer. Après un court instant de repos, Maître Lamour reprend le fil blanc de son discours. Maître Lamour ne demande pas que l'on récompense sa cliente, non. Loin de lui, cette pensée grotesque. Mais, effet de rein, il veut que justice soit faite. Il veut, effet de toque sur l'oreille, que la cour, si intelligente, si noble, si spirituelle, effet de manche, regarde l'affaire du bois des coins comme une aventure toute naturelle et bien excusable, et qui, d'ailleurs, effet de jambes, n'a pas eu de suite fâcheuse pour les deux parties. « Il faut, dit-il en écrasant son portefeuille sur son cœur, il faut que la demoiselle Chaton sorte du prétoire la tête haute, à la face de l'auditoire témoin de ses angoisses et des combats livrés à sa pudeur. » Tonnerre d'applaudissements. Monsieur le Président, toute marque d'approbation ou d'improbation sera sévèrement réprimée. Les huissiers. Silence ! Maître Lamour se rassied et reçoit les félicitations d'un grand nombre de ses confrères. La cour se retire dans la salle des délibérations. Pendant son absence, qui dure 20 minutes, un plaisant crie « Canja, limonade, bière !» On rit. Enfin, les juges et les jurés reprennent leur place. Une odeur de Londres et de grog au kirsch trahit le secret et véritable motif de leur absence. Non, l'accusé n'est pas coupable. Telle est la phrase que prononce le président en rougissant. 130 voix contre 2 l'autorise à faire mettre immédiatement en liberté la fille Chaton. Condamne le gendarme de la gare à 7 ans de travaux ennuyeux. Cri de joie dans l'auditoire. Au milieu de la salle, étroitement enlacés, et la victime et son bourreau se donnent des marques nombreuses de leur complète satisfaction. Les huissiers donnent leur carte à la pauvre fille. Messieurs les avocats stagiaires, propose d'organiser une collecte dont le produit sera versé esmain de la prévenue réhabilitée. Celle-ci, pour couper court à ces manifestations bienveillantes, s'écrie « Messieurs, si nous allions prendre un boc !» La foule heureuse s'écoule bruyamment par les nombreux vomitoires du palais. À cet instant, un vieux juge, profondément oublié sur un banc, se réveille hébété dans la salle vide et, les yeux à demi-clos, crie d'une voix pâteuse « Coupable !» Le greffier, signature illisible.